Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Agnès. Nous sommes donc avec Charlotte qui est étudiante à Nice, mais elle est à Cannes aujourd'hui. Mais elle est concernée évidemment par le confinement, puisque c'est le département des Alpes-Maritimes. Charlotte ?
Oui, je suis là.
Bon, vous êtes là. Cannes-Nice, c'est moins de 20 km ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a très peu d'espace entre nous. On est touché, donc, de ce que j'ai compris, c'est entre Mandelieu et Menton. Donc, c'est assez espacé. Et en fait, moi, de ce que je retiens de ce week-end, de l'attente, etc., c'est qu'il y a eu des incohérences, en fait, entre ce qui a été dit et fait. Donc, on nous confine les deux prochains week-ends, mais dans d'autres départements, on laisse libre cours à toute infraction aux règles sanitaires. Il y a eu des soirées clandestines, des fêtes, etc. Et je trouve ça un peu injuste, en fait. Faut aussi prendre en compte le fait que si le taux d'incidence baisse, grâce aux deux week-ends de confinement, ça va laisser libre cours aux touristes de revenir et ou de rester, et peut-être encore une fois de voir un taux d'incidence élevé. Il y a une incompréhension sur le fait que les dires sont contradictoires. C'est ce que disait le maire tout à l'heure à l'antenne, le maire de Mandelieu. Donc moi, je pense qu'il faut en appeler à la solidarité civique et faire comprendre aux touristes que s'ils reviennent, ça va encore nous envahir, et donc avec une possible contamination comme l'été dernier. Et je pense que deux week-ends ne changeront pas obligatoirement quelque chose. Les mesures, elles ont été prises trop tard, je pense, du point de vue des règles sanitaires. Donc ça fait qu'en fait, il y a deux semaines, on nous disait « Non, mais vous inquiétez pas, tout le monde peut partir en vacances. » Donc il y a eu beaucoup de touristes qui sont arrivés. Et là, on nous dit que les deux prochains week-ends, on est confinés. Et dans d'autres départements, il n'y a aucune mesure qui ont été prises, quoi.
C'est le littoral, hein, c'est pas tout le département.
Oui, tout le littoral, mais quand même.
Ça c'est touche, 90% de la population, paraît-il, le littoral. Donc c'est de Théoul sur mer jusqu'à Menton.
C'est ça.
Et donc c'est 90% de la population du département, nous dit-on, le littoral.
Alors, c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors, ils auraient pu mettre tout le département, ça aurait peut-être été plus simple, mais peu importe. Donc, c'est la première fois, hein, que des mesures de confinement vont être mises en œuvre. C'est pour empêcher, effectivement, d'abord, sans doute, les Niçois et les gens des Alpes-Maritimes d'aller à la plage, de se regrouper. Et puis, surtout, sans doute, et là, vous avez raison de le dire, aux autres dits touristes de venir. Mais ça préfigure peut-être ce qui se passera cet été. C'est-à-dire qu'on demandera peut-être cet été aux uns aux autres de ne pas voyager. De ne pas aller précisément sur la Côte d'Azur, de ne pas aller dans d'autres départements. Peut-être.
Peut-être. Écoutez, on verra comment la situation évolue. Mais là, pour l'instant, ce qui a été fait, ça a peut-être été fait trop en retard.
Ouais.
C'est-à-dire que ça a été pris trop tard.
Écoutez, Chat, je ne peux pas répondre à cette question. Et puis, si vous nous suivez, vous savez que sur ces questions-là... j'ai l'impression que le confinement n'est pas toujours la bonne solution, Charlotte, mais ce n'est qu'un,
ce n'est qu'un
avis personnel, si j'ose dire.
Non, mais on est d'accord,
bon.
Monsieur, on est d'accord.
Bon, Charles-Ange Ginési est là, et c'est le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il peut peut-être nous expliquer. Bonjour, monsieur Ginési.
Oui, bonjour.
D'abord, je salue ce prénom assez rare, Charles-Ange Ginési. Je n'ai pas forcément besoin de savoir d'où vous venez pour imaginer quelle est votre provenance, monsieur Ginési.
Il y a un ancrage méditerranéen très fort, exact.
Et peut-être même la Corse, pourquoi pas.
Et pas loin.
Bon, dites-nous, pourquoi par exemple les Alpes-Maritimes ne sont pas confinées entièrement? Pourquoi simplement le littoral?
Je pense que Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a voulu prendre en compte le contexte très particulier des Alpes-Maritimes, avec 90% de la population sur la bande littorale et 10% de la population sur le moyen pays. Et puis, il y a aussi sur la bande littorale des différences qui sont défendues par les maires respectifs de Cannes, d'Antibes, de Grasse, et qui n'avaient pas la même position que le président de la métropole, maire de Nice. Et là-dessus, il a fallu qu'il trouve un modus vivendi pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Donc voilà un petit peu l'explication de ce confinement partiel qui ne touche pas toutes les Alpes-Maritimes et qui, de surcroît, ne touche les Alpes-Maritimes que les week-ends, qui laisse un petit peu l'économie s'oxygéner.
Mais moi, l'impression que j'ai, c'est est-ce que ça va être efficace ? Parce que on est aujourd'hui lundi, donc si vraiment la situation explose jusqu'à vendredi, on n'y touche pas. Et puis le samedi, dimanche, on dit on ferme tout. Et puis lundi, on rouvre tout. Donc on commence à avoir un petit peu d'expérience et de recul sur cette épidémie. Je comprends que ce soit pas mal de pas faire venir de touristes en plus, surtout un week-end, ça je le comprends bien. Mais j'ai l'impression que je suis pas certain que ce soit efficace.
Votre question, je peux la faire mienne, parce que je m'interroge également. Je m'interroge également parce que...
Vous me rassurez que je ne sois pas tout seul.
Quand on complexifie comme ça les choses et qu'on veut trop rentrer dans le détail, on a beaucoup de difficultés à les mettre en œuvre. Et ça a été le cas. Moi, je me suis élevé contre l'extension, par exemple, du couvre-feu à 18h. Il a été démontré que ce couvre-feu n'a rien apporté dans la résolution. La preuve, c'est que notre département flambe quand même. Au contraire, on a concentré des gens sur des périodes et des plages horaires beaucoup plus courtes pour faire leurs allers-retours au travail, pour aller faire leurs commissions. Et puis, il y a eu aussi la difficulté de faire tenir ces barrières sanitaires, la difficulté de faire respecter, et les moyens ne sont pas au rendez-vous. Et c'est un petit peu, moi, ce que je regrette dans la venue du ministre qui nous dit, voilà, vous avez un département qui flambe, allez, vous avez 3500 doses de vaccins supplémentaires. Vous avez un département qui flambe, on sent bien que la grogne monte, deux jours après, il nous met 1000 vaccins supplémentaires. Donc aujourd'hui, 4500 vaccins pour un département où le taux de vaccination est à 4,1% sur 1 million d'habitants. C'est-à-dire que nous sommes, depuis le mois de janvier, dans une montée en puissance qui ne nous met pas à l'abri. Pour moi, la vaccination, l'arme absolue serait un confinement rapide de 15 jours avec une vaccination massive. Ça, malheureusement, on n'est pas capable
de le faire. Ben, merci. Je précise quand même que vous êtes des Républicains et c'est important de le dire. Mais c'est vrai que ce mot qui est souvent galvaudé de bon sens, souvent on s'en moque et on le tourne en dérision. Et c'est vrai que quand tu entends ces mesures qui sont prises aujourd'hui, immédiatement tu dis mais en fait ça va rien changer, c'est la première réaction que tu as, et en même temps tu as le sentiment que ceux qui dirigent prennent des décisions parce qu'il faut bien en prendre, donc faut bien faire quelque chose quoi. Donc on va faire ça, tout le monde sait que ça sert à rien mais on le fait quand même. Bon, vous pouvez réagir hein, bien sûr à ce que je dis et contrarier ce que je viens de dire, pourquoi pas. À tout de suite, en tout cas je salue le retour de Greg Karanoni.
Bonjour à tous
et merci d'être là aujourd'hui.
Avec plaisir.
Ça me fait plaisir. Vous n'êtes pas des Alpes-Maritimes, vous êtes le département voisin.
Les Bouches-du-Rhône.
Les Bouches-du-Rhône.
Enfin, les Bouches-du-Rhône, comme je dirais normalement.
Bon, je remercie Monsieur Ginesi et nous poursuivons la conversation. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Monsieur Tessier, le week-end fut bon ?
À la maison.
Cachez
votre
joie. Il n'y a
pas grand-chose à vous raconter sur mon programme.
Cachez votre joie. Vous pourriez être bien en famille.
Courses, sortir. Ah ben oui, mais on est très bien. Ah, mais après, vous pouvez poser la même question le week-end prochain, je vous dirai la même chose.
Bah écoutez, quelle nouvelle ?
Alors l'annonce est tombée un peu après-midi. Le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé deux nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19 dans le département.
La situation épidémique actuelle impose également une restriction des déplacements et donc un confinement partiel. Alors pour les deux week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale, qui s'étend de Menton à Théoul-sur-Mer et qui concentre près de 90% de la population du département.
Réaction de Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la Napoule, il était l'invité de RTL Midi.
C'est très problématique et si vous voulez, ça fait aussi partie de l'incompréhension. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait quand même plus d'informations préalables et qu'on se retrouve pas une fois de plus devant le fait accompli, alors que depuis des semaines, on nous dit que tout va bien, et en 24 heures, tout va mal.
Alors, le littoral des Alpes-Maritimes confiné lors des deux prochains week-ends, qu'en pensez-vous ? Faut-il prendre cette mesure partout où la situation sanitaire est tendue ? Eh bien, il fallait réagir plus tôt dans les Alpes-Maritimes. S'énerve Fred sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Que de temps perdu, je n'y comprends plus rien, écrit Gab, je pensais que tout s'améliorait. Un confinement le week-end, c'est non pour Jacques, le virus ne s'arrête pas de circuler la semaine, et je ne suis pas médecin, nous dit Véro, mais confiné le littoral. littoral des Alpes-Maritimes de week-end me paraît insuffisant. Ça repartira sans aucun doute.
Mais ça, c'est drôle, la personne qui dit que le virus ne circule pas dans la semaine.
Faut
ça,
le préciser,
c'est amusant. Il ne sort que le week-end. Donc, c'est pour ça qu'on confine le week-end. Jean-Baptiste, bonjour. Qui est médecin, Jean-Baptiste?
Tout à fait.
Bon, quel est votre avis sur cette mesure sur le plan médical et sanitaire?
C'est un avis très personnel.
Médical surtout, puisque vous êtes médecin.
Oui,
professionnel quand même.
Oui, mais je tiens à préciser que je ne cherche pas à être en contradiction avec un message de santé publique particulier. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Oui.
Et même, je vous écoute.
Mais je pense que tout ça, la réponse à tout ça, elle est à chercher dans le mode de fonctionnement binaire du politique, c'est-à-dire proposer une action politique à chaque fois qu'il se passe quelque chose, avec une action politique et des résultats dans l'immédiateté de préférence. Et j'ai l'impression, j'ai regardé des chiffres un peu avant de prendre la parole, et d'ailleurs sur un site qui est bien fait qui s'appelle Covid Tracker.
Bien sûr, qu'on cite souvent, qui est assez remarquable. J'ai les chiffres de Covid Tracker sous les yeux.
Ouais, regardez le profil de courbe. Je pense qu'enfin après on verra. Hein, on a atteint le pic sur le département et je pense qu'on est en phase de décroissance. Donc je sais pas si c'est pas une porte de sortie politique qui cherche le ministre de la Santé surtout avec son.
Pour dire que ça a baissé après. Regardez.
Surfer formidable. Sur la décroissance, si vous voulez. Voilà. Bon, moi je le pense à titre personnel. Et encore une fois, tout ça, enfin, ils n'arriveront pas. Tout ça, c'est de la modélisation, et ils n'arriveront pas il n'existe pas de lien de cause à effet entre les mesures sociales, même si elles sont difficiles, et l'évolution d'une épidémie virale.
Il y a quand même, si on confine à 100%, s'arrête, ça freine, alors ça reprend après. Par définition,
oui. Enfin, ça c'est de la théorie. Vous enfermez tout le monde pendant un mois, vous attendez que les gens meurent à la maison, que les choses s'éteignent d'elles-mêmes, comme un feu qui s'éteindrait tout seul, en fait. Et puis voilà.
Bon, vous êtes généraliste?
Oui, mais je travaille sur un centre de réadaptation dans une unité Covid. Donc, et chez les sujets de plus de 75 ans. Donc, je vois le profil des sujets à risque.
Le médecin que vous êtes, quelle est finalement la meilleure stratégie? J'ai pas dit solution.
Non, je vous l'avais dit il y a quelque temps déjà, mais c'est soigner les gens, dépister de manière intelligente, enfin faire du diagnostic de façon intelligente, et en fait redonner la main au médecin. Arrêter de faire du dépistage à tout va pour un oui pour un non parce que c'est idiot. Il faut que les médecins se recentrent sur leur métier, c'est-à-dire faire du diagnostic syndromique, émettre des hypothèses diagnostiques, essayer de les infirmer, de les confirmer, isoler les gens, les hospitaliser, les traiter, faire du soin tout simplement. Il y a de la vaccination aussi. Alors après, sur la vaccination, moi, j'ai pas de données. Pour l'instant, mon avis perso, c'est qu'on est allé un peu vite quand même et qu'il doit avoir un petit peu de temps pour voir les effets s'il y en a réellement. Et on pourra pas les voir aussi dans l'immédiateté, mais je pense qu'il est raisonnable de vacciner les sujets très à risque. Je pense que la solution, elle est là. Et arrêter de, il y a une vraie distorsion de la réalité. Ça, pour moi, c'est clair, quoi.
Merci Jean-Baptiste de ce témoignage. Alain est là également, des Alpes-Maritimes. Bonjour Alain, on le prendra peut-être après la publicité. Vous êtes conducteur de bus à Menton?
Non, je suis conducteur de car de tourisme.
Ah.
Les conducteurs de bus, eux, travaillent. Et je vous parle d'une profession dont on n'a jamais parlé depuis le 14 mars de l'année dernière. Voilà.
C'est vrai.
Qui est à l'abandon complètement, monsieur. Complètement à l'abandon.
Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça après la pub. À tout de suite.
Je suis en colère. Merci Pascal, merci beaucoup.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est vrai qu'Alain a raison, je ne crois pas que nous ayons parlé depuis mars dernier de cette profession de car. On a parfois parlé des opérateurs touristes.
On fait l'amalgame bien souvent. En fait, aujourd'hui, je suis en colère et je vous écoute tous les jours, Pascal. Parce que j'ai le temps aujourd'hui, je ne travaille pas, donc voilà. Je suis absolument d'accord avec le médecin qui vient de parler, c'est une ineptie totale. on se trompe de cible. Quand on fait les chiffres, quand on veut donner des chiffres, on a un ratio de 700 pour 100 000 habitants sur les Alpes-Maritimes ou sur la métropole de Nice-Côte d'Azur aujourd'hui. Ça représente quoi? 0,7% de la population, monsieur Pascal Praud. 0,7% de la population. Et on tue l'économie. On va tuer l'économie. La Côte d'Azur ne vit que par le tourisme. Depuis un an, des touristes, on n'en a plus vu. D'accord. La profession que j'exerce aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas l'exercer. On a des entreprises, et je parle pour celle qui m'emploie, qui a le courage d'exister toujours, parce que je parle de courage. On les tord avec des sommes folles. On leur fait imaginer, on n'a aucune visibilité sur ce que peut être l'avenir. Alors que, et c'est un coup de colère, excusez-moi Pascal Praud, mais alors que nos grands décideurs, qu'ils soient régionaux, locaux ou nationaux, pour eux, le Covid, qu'est-ce que ça a été? Se faire valoir d'un côté, de l'autre? On n'a jamais entendu, et ça j'aimerais qu'un jour on puisse l'entendre, avant que la pandémie ne s'arrête, on comprend le désarroi financier des Français. On va couper nos indemnités en deux. On va couper nos indemnités en deux.
Qu'est-ce que vous appelez nos indemnités? On va couper nos indemnités en deux? Ça veut dire quoi?
Monsieur le ministre, vous connaissez son montant? Est-ce qu'on a parlé du chômage partiel pour les députés, les sénateurs et les ministres, et le Premier ministre, bien sûr? Ce sont des actions. Il faut donner l'exemple à un moment donné. Quand on veut imposer quelque chose à quelqu'un...
Vous voulez que les ministres divisent par deux leur salaire, c'est ça?
Tout à fait, monsieur. Je serai pour une telle mesure. Ce qui irait dans le sens d'une économie un peu plus favorable pour la nation. On nous a demandé, moi, monsieur, mon salaire, il a été coupé en 2,5, mon salaire, monsieur. Parce qu'on parle du chômage partiel. Mais quand on a dans notre métier à nous des salaires qui sont constitués de, en gros, 30% de primes, d'accord? On ne tient que le salaire de base. Moi, je suis passé de 3005 à 1450 euros par mois, monsieur.
Vous avez perdu 2500 euros net?
J'ai perdu 2500 euros de salaire tous les mois, monsieur. Mais je suis à deux doigts de tout faire péter. Et malheureusement, et là-haut, ils se dindonnent à tous. Ils sont là, ils paradent, ils disent, bon, là, il y a des problèmes dans la Moselle. Le ministre de la Santé est allé en Moselle. Maintenant, on apprend qu'en géographie, la Moselle a une frontière avec l'Allemagne. Et regardez des cartes, bon Dieu, l'Alsace et la Lorraine ne sont plus en Allemagne. Il y a un problème à Nice, le ministre, il vient à Nice. Mais attendez, mais qui c'est qui paye tout ça? Mais qui paye tout ça? C'est nous. C'est nous, monsieur. On n'en peut plus, les Français. On n'en peut plus. Alors 0,7% de la population qu'on soigne des diabètes, qu'on soigne des arrêts, des difficultés respiratoires, des insuffisances cardiaques, et qu'on nous foute la paix, et qu'on nous laisse vivre, et surtout qu'on nous laisse travailler pour gagner honnêtement notre vie. Voilà le message que je veux faire passer aujourd'hui. Monsieur Estrosi, pour ne pas le citer, pendant les fêtes, il a passé deux jours à Monaco. Et aujourd'hui, il ne veut plus que les Monégasques qui rentrent en France. Mais de qui on se moque? Mais de qui on se moque?
Bon, je ne peux pas vérifier ce que vous dites sur Christian Estrosi. Je ne sais pas s'il était à Monaco ou pas.
Oui, donc il a passé deux jours à Monaco. Non,
alors je précise que je ne peux pas vérifier ce que vous dites. C'est important de le dire, Alain, c'est le principe de notre émission. Simplement, que je comprenne bien, aujourd'hui, votre entreprise, tous les conducteurs...
Non, je suis employé.
Oui, mais c'est ce que je vous dis. Attendez. Alors, voilà. Donc, c'est une entreprise. Il y avait combien de conducteurs de cars?
On est 12.
D'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes passé de 3500 euros. C'était net ou brut, le chiffre que vous m'avez donné? 3500 euros. Et le chiffre que vous avez aujourd'hui, c'est 1400 euros?
1450 euros, puisqu'on ne prend en compte que le salaire de base.
Et le salaire de base, alors le chômage partiel, c'est combien? C'est 85% du salaire?
84% du salaire net. Bon. Et aujourd'hui, depuis 3 mois à 4 mois, la part qui est prise en charge par l'État a baissé. Donc c'est l'entreprise qui doit mettre la différence. Bon.
Et évidemment, il n'y a pas... Mais alors, votre entreprise, elle est même aujourd'hui, j'imagine, aux portes du dépôt de bilan, puisque depuis mars dernier, vous n'avez pas eu une seule personne dans votre car.
Du tout. Il y a un petit service qui fait de la ligne urbaine, qui permet, et du ramassage scolaire, qui permet justement une certaine survie. Mais on est tous, mais je ne parle pas que pour la mienne, mais tous les...
Il y avait combien d'entreprises, combien de personnes, d'employés dans cette entreprise?
Chez nous?
Oui.
On est une quinzaine.
Une quinzaine. Et donc, les cars sont immobilisés.
Les assurances sont payées, les leasings sont payés. Tous les 6 mois, on passe au contrôle technique. On fait 70 km entre les deux contrôles techniques, alors qu'habituellement, on est à 58 km. Non, il faut que ça
Et votre patron, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui?
Mon patron, lui, il n'a carrément pas de salaire. Vous voyez? Parce que comme il est président de la société, il n'a pas droit au chômage partiel. Voilà.
C'est passionnant, c'est votre exemple, parce que c'est la France, effectivement, c'est une toute petite
jamais,
PME.
On n'en a jamais parlé des professionnels du tourisme, on a parlé des agences de voyage.
Mais là, c'est une PME. Il y a beaucoup d'entreprises comme vous, de cars en France, de ce type.
Il y en a sur le département, il y en a une trentaine. Mais vous savez, monsieur, nous, on est une entreprise qui a aujourd'hui 55 ans d'âge. Et la dernière année qu'on vient de vivre, c'est une catastrophe. Et heureusement que pendant 55 ans, la gestion a été saine et sereine. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir arriver, on espère, et de pouvoir arriver.
Oui, parce que l'entreprise a des fonds propres, sans doute.
Mais voilà, l'entreprise a des fonds propres, évidemment. On a pu bénéficier des PGE, mais il faut les rembourser, ces PGE, monsieur.
Oui, bien sûr.
Il faut les rembourser, ces PGE.
Bah, je comprends, Alain, votre... je comprends.
Aujourd'hui, vous avez un auditeur en colère.
Oui,
en
mais...
colère quand j'entends des décisions comme celles qui viennent d'être prises par le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne servira strictement à rien.
Mais ce que je retiens...
Le virus, dans leur tête, le virus, le vendredi soir à 18h, il va arrêter de circuler. Il va se remettre à circuler le lundi matin. Voilà. Il va faire la Java sur la Côte d'Azur. Mais le vendredi soir, hop, allez.
Peut-être ce que je retiens surtout, Alain, de votre témoignage, et je l'ai dit de nombreuses fois, c'est ceux vrai. Qui sont payés en fin de mois ne parlent pas du Covid de la même manière que ceux qui ne sont pas payés en fin de mois.
Voilà.
Je voudrais voir tous ceux qui sont payés en fin de mois bien au chaud, que ce soit des administratifs, et parfois effectivement dans nos métiers, je l'entends, prôner le confinement, etc. Et
mais pourquoi pas les politiques, Pascal, vous travaillez.
Mais bien sûr, j'ai bien confiance.
On a affaire à des politiques qui prennent des décisions qui vont à contre-sens du bon sens, monsieur. J'aimerais qu'on ait un peu plus de bon sens dans ce pays aujourd'hui.
C'est ça qui est difficile.
Qu'on aille s'attaquer aux problèmes, aux vrais problèmes que sont les comorbidités. Et écoutez, l'autre jour, mon frère habite dans les Ardennes, un accident sur la voie rapide entre Sedan et Charleville, trois morts du Covid. Non mais on va où là? Mais on va où? Mais j'en peux plus, moi je suis au bord du gouffre, J'avais des petites économies, il n'y en a plus. Mais voilà, mais et eux là-haut, ils pavoisent encore et ils vous donnent des leçons de vie en plus. Non, mais qui c'est ces gens-là? Mais qui c'est ces gens-là? Ce sont des incompétents, monsieur. Ce sont des incompétents.
C'est plus compliqué que ça, Alain. C'est plus compliqué que cela. Mais c'est des mécanismes. Et effectivement, ce sont des mécanismes.
Et j'aimerais que de mon intervention, on ne retienne qu'un seul chiffre. 0,7% de la population sur la Côte d'Azur est atteinte du Covid.
Bon.
Mais attention, monsieur.
Alain, on marque une pause. Moi, ce que je vous propose, c'est vous restez avec nous et on va essayer de vous mettre en discussion avec quelqu'un qui prône un super confinement en France. Voilà. Comme ça, on aura deux options très différentes. Et il y a parfois des auditeurs qui nous appellent, qui sont sur ce point radicaux. Mais à chaque fois, d'ailleurs, je leur pose la question, vous êtes payé ou pas en fin de mois? Et j'ai jamais entendu, depuis un an que cette épidémie a commencé, un super radical sur le confinement, mais qui n'aurait pas été payé en fin de mois. Ça, ce profil-là, comme par hasard, il n'existe pas. 13h28, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je voudrais vraiment qu'on parle de McFly et Carlito, parce que je suis sûr que parmi nos auditeurs qui nous écoutent à l'instant, ils disent « Mais qui est ?» McFly et Carlito, même si on en parle depuis ce matin.
Eh bien, ce sont des youtubeurs qui ont relevé le défi d'Emmanuel
même
Macron.
Même youtubeur, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
Eh bien, justement,
un
vous
YouTuber.
Nous appelez au 3210. Un youtubeur,
Emmanuel
c'est
Macron,
pas très joli
peut-être.
D'ailleurs.
Mais non, c'est pas joli, c'est des gens qui sont sur YouTube. Mais pensez, il y a des gens qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que c'est que YouTube. Ils n'ont pas Internet, tout le monde n'a pas Internet.
Eh bien, c'est l'occasion d'en parler.
C'est quoi
justement.
Un youtubeur?
Un youtubeur, c'est quelqu'un qui met des vidéos sur la plateforme YouTube.
Et c'est quoi YouTube?
YouTube, vous pouvez trouver toutes sortes de vidéos.
La plateforme.
C'est
quoi la plateforme?
Vous tapez YouTube.
Les gens disent, il faut penser.
C'est une plateforme de vidéos en ligne.
Voilà, et bravo.
Et
vous
c'est
l'avez
la
bien
question.
Expliqué.
Et je vous la repose. Connaissez-vous McFly et Carlito, youtubeurs qui ont relevé le défi d'Emmanuel Macron, le président, les a invités à réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières. Il leur a promis les inviter à tourner à l'Elysée s'ils atteignaient les 10 millions de vues.
J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras.
C'est trop visqueux.
J'ai éternué dans.
Cette communication peut-elle avoir un impact? Êtes-vous surpris? Emmanuel Macron a-t-il raison de compter sur les youtubeurs? Eh bien, le chef de l'État a besoin de voix chez les jeunes, apparemment, lance Patricia sur nos réseaux sociaux. La politique est tombée bien bas pour Barbara. Pur coup de com', s'énerve Jean-Pierre. Partagez-vous ses avis. 32 bis. Il n'y a pas lieu de faire polémique. Ce sont les mots, ce matin, de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, était l'invité de RTL avec Benjamin Sportouche. Elle a demandé la semaine dernière au CNRS une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université.
Je dis que je veux un état des lieux sur ce sujet et qu'il n'y a pas lieu de faire polémique quand une ministre de la Recherche demande un état des lieux de la recherche sur un sujet.
Plus de 600 universitaires ont clamé sa démission dans une tribune publiée par Le Monde. Frédéric Vidal a-t-elle raison de maintenir sa demande d'enquête? A-t-elle été trop loin? Eh bien, je la soutiens, écrit Philippe sur la page Facebook de l'émission. Elle fait son travail. Une polémique de plus pour Marie, même si ce n'est pas la priorité. Cette enquête ne me choque pas. Et que Madame Vidal s'occupe plus attentivement des étudiants en difficulté, demande Karine.
Je disais à Alain qu'on allait peut-être le mettre en opposition avec quelqu'un qui était pour un confinement dur. Bah, je crois que nous avons trouvé la personne avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes aide-soignant, bonjour, c'est important de le préciser. Bonjour, vous habitez Stéphane. Dans les Bouches-du-Rhône et vous entendiez Alain et sa détresse. Et, et c'est important sans doute de préciser, Stéphane, que vous êtes payé quoi qu'il arrive à la fin du mois et que votre salaire n'a pas bougé depuis un an.
Alors, quoi qu'il arrive, je vais quand même faire une petite précision. Je suis aide-soignant intérimaire et c'est pas un choix pour gagner plus, c'est un choix parce que suite à un cancer et une situation de séparation difficile, je n'ai pas eu le choix que de faire de l'intérim parce que sinon n'importe quel salaire de base me permettrait pas de vivre. Sachant aussi que même le chômage, qui est pourtant une assez grosse somme, me paye pratiquement plus que n'importe quel patron qui me rembauchera avec 30 ans d'ancienneté. Ça, c'est une autre problématique de l'assistance française. Voilà.
Bon, en tout cas, quand vous entendez le témoignage d'Alain, qui est aux portes vraiment de la... De la dépression.
J'entends sa détresse, j'entends tout à fait sa détresse. Maintenant, je vais me référer aussi un petit peu à ce qu'a dit au médecin avant. Ça fait un moment qu'on dit rendez la santé quand même aux gens de la santé et que ça soit pas des gens au-dessus qui prennent des décisions sans savoir de quoi ils parlent. Ça, je serais plutôt d'accord avec Alain. Maintenant, j'entends sa détresse aussi. Je veux lui rappeler quand même qu'on est quand même parmi les pays qui avons le plus de mesures qui nous soutiennent quand même économiquement. On serait dans n'importe quel pays développé, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, on serait dans une situation économique 10 fois pire. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'auraient pas de chômage, pas de sécu et pas d'hôpital s'ils n'avaient pas d'argent. Alors, je l'entends, j'entends la détresse de beaucoup de gens, mais je vous dis, moi je suis dans un système de santé, ça fait plus de 10 ans qu'on dit « rendez-nous à nous, comment dire, les soignants, les décisions, parce qu'on est sur le terrain ». Et qu'on voit que ça part à volo, alors qu'on a parmi un des meilleurs...
C'est pas le sujet, là, si vous me permettez. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a disproportion entre les mesures qui sont prises et cette épidémie. Et Alain disait 0,7% des gens sont touchés. Bah, c'est ça, le sujet.
0,7, oui, mais effectivement, mais je veux dire, quand on regarde la quantité de morts qu'on a quand même aujourd'hui à plus de 85 000, avec des mesures... Qu'est-ce que ça serait sans mesure? Moi, je parle de réanimation, je parle de mes collègues qui ont 20 ans de moins que moi, qui ont 25, 30 ans et qui ont attrapé le Covid et qui se retrouvent mais saturés, débordés. Et je veux dire, on n'en peut plus. Moi, j'en suis au point aujourd'hui, on est tellement dans une absurdité. Et parce que j'ai 50 ans aussi, je ne veux plus m'occuper des cas Covid. Je n'ai pas eu de prime. Je suis en situation que je suis en surendettement et que si j'ai pas un minimum de salaire, je ne vis pas. Les gens sont pas tout à fait respectueux de certaines, situations de, on leur demande des gestes barrières. Alors, la plupart le respectent, je l'entends.
Bon, Stéphane, restons vraiment sur l'angle qu'on a défini. Est-ce que c'est disproportionné ou pas? Alors, Alain vous écoute et peut peut-être engager la conversation avec vous. Alain, c'est à vous.
Moi, j'étais pour un confinement fort sur 4 semaines et pas des mesures à l'emporte-pièce, quoi. Voilà.
Voilà. Mais concrètement, cher monsieur, vous êtes dans le médical. On nous annonce 85 000 personnes décédées depuis le 1er mars.
Oui.
D'accord? De l'année dernière, on est bien d'accord. Mais sur les 85 000, monsieur, en toute honnêteté, vous qui êtes dans le milieu médical, est-ce qu'il y a eu 85 000 morts de la Covid? Non.
Oui, si.
Non, il y a plus de cas
cardiaques. Non, Stéphane, il y a une différence entre mourir du Covid et mourir avec le Covid, on le sait.
Mais non, mais la grippe,
là, c'est pas la même chose.
Il n'y a plus rien.
c'est pas la même chose. Et simplement, on n'a pas de stats
moi,
là-dessus.
La réanimation de Montpellier, par exemple, je vois la réanimation de Montpellier, des collègues qui travaillent là où je travaillais auparavant, puisque j'étais à Montpellier, je suis parti 6 ans en Haute-Savoie et je reviens dans le sud après 6 ans. Moi qui ai connu le premier confinement en Haute-Savoie et le deuxième dans les Bouches-du-Rhône, que je sois partout et qui ai même travaillé pendant le mois de décembre en région parisienne quand j'ai pu aller voir ma famille et me déplacer, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Les réanimations commencent à être saturées, on n'a pas augmenté le nombre de lits et je vois mes collègues qui ont été touchés et débordés au premier cas qui se retrouvent à nouveau dans cette situation. C'est, voilà, écoutez-nous vraiment, on est vraiment.
Mais je le sais, j'ai des amis, de la famille dans le milieu médical, mais on en parle et on dit toujours les mêmes choses. Soignons les comorbidités, soignons les diabétiques, soignons les insuffisants cardiaques et les insuffisants respiratoires et peut-être qu'on arrivera à combattre cette pandémie. Mais il faut arrêter de donner des chiffres comme ça dans le vide avec 85 000 morts de la Covid. Non, c'est fou. Il n'y a plus de grippe. Il n'y a pas eu de grippe cette année. Il n'y a pas eu de crise cardiaque et il n'y a pas eu d'AVC. Mais enfin, où on va? Mais où
y
on va?
Il y en a, mais parce qu'ils ne nous ont pas donné les chiffres.
Alors pourquoi on n'en parle
ils
pas
sont toujours. Bah parce que ça, après ça, on peut après, je pense que c'est pas un problème plus médiatique que plus aux gens au niveau de l'État. On peut critiquer les décisions de nos gouvernements. Je suis pas d'accord.
Non, ça c'est pas un problème médiatique. C'est quand on dit mort du Covid, nous on peut pas aller vérifier. Vous voyez ce que je dirais? Et je fais la distinction entre ceux. S'il vous plaît. On est trois à parler, donc c'est compliqué.
Aujourd'hui, excusez-moi, oui. Excusez-moi. Aujourd'hui, je veux dire, c'est les gens se réfèrent, je sais pas, à l'internet, à l'excès
mais non,
peut-être
mais
de
pas
trop
du
de
tout,
médias.
Mais pas du tout. Monsieur,
les infos, on les a quand on veut les avoir. On peut les avoir simplement.
Mais Stéphane, c'est assez clair. On a tous des témoignages, mais je vous dis, je n'ai pas de statistiques précises. C'est pour ça que je fais la distinction entre mourir du Covid et mourir avec le Covid. Quand vous avez des gens qui ont un cancer et qui font 30 kilos ou 35 kilos, ce qu'on nous a parfois rapporté et qui en fin de vie attrapent le Covid, ils sont dans les statistiques morts du Covid. Voilà,
ben
comprenez non, que c'est ça pose problème. Voilà. Mais comme on n'a pas de stats, on ne sait pas si c'est 20, 30 ou 40 % des gens qui sont morts du Covid qui avaient autre chose. C'est ça qu'on ne sait pas. Bon, enfin
donnons un autre chiffre. Les personnes qui sont atteintes par le virus et qui s'en sortent, personne n'en parle.
Ah si, on en parle beaucoup, ça, l'un des gens qui s'en sortent, évidemment, et tant mieux. On en parle beaucoup des gens qui s'en sortent.
Je veux dire, c'est comme on dit que les jeunes ne sont pas touchés, on envoie des jeunes touchés.
Mais mon fils, il y a 25 ans, il a été touché, monsieur.
Écoutez,
et il se porte comme un charme.
Voilà. Mais
il a
ce que je veux vous dire,
ça a été fini.
Stéphane, on peut parler pendant des heures.
Je connais des gens qui ont aussi 25 ans et puis qui ont eu des symptômes dramatiques.
Mais Stéphane, nous sommes d'accord avec cela, nous le disons, et c'est une maladie compliquée, etc. Mais il y a quand même. Il y a 3392 personnes qui sont en réanimation à l'heure à laquelle je parle. On est 66 millions. Voilà. C'est ça, là, quand même, la réalité. Bon. Alors, après, chacun peut... choisit son camp, si j'ose dire, et peut trouver ou non que ces mesures sont disproportionnées ou pas. La santé, ce n'est pas simplement de ne pas attraper le Covid. Et à la santé, c'est aussi mental, c'est psychologique. Il y a plein de facteurs, bien évidemment, dont nous parlons ici. Tous les jours, Monsieur Caronani, c'est vrai que j'ai l'impression parfois qu'on se répète forcément dans ces conversations.
Forcément, un peu parfois, bien sûr. Mais
bon, Evelyne va être là de Perpignan, mais McFly et Carlito, vous connaissiez-vous?
Bien sûr.
Sérieusement?
Oui, sérieusement. Oui.
D'accord.
Alors, je regardais pas leurs vidéos sans cesse et chaque jour, mais c'est tenté qu'ils fassent des vidéos chaque jour, qu'ils aient fait des vidéos chaque jour, mais je connaissais pas vous. Vous les avez découverts?
Non, je connaissais un peu. J'ai des jeunes autour de moi donc, et des enfants, donc ils m'ont mis au parfum, bien évidemment. Mais je pense que ceux qui nous écoutent, tout le monde ne connaît pas.
J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras.
C'est trop visqueux.
J'ai éternué dans ma main, mon coude était trop loin.
Alors, les stars de YouTube, McFly et Carlito, étaient en bonne voie de relever ce défi du président Macron, qui les a invités à réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières et leur a promis de les inviter à tourner à l'Élysée s'ils atteignaient les 10 millions de vues. C'est une manière aussi de parler aux jeunes pour Emmanuel Macron, qui veut faire passer des messages. Et peut-être que les jeunes n'écoutent pas forcément la télé et ne regardent pas la radio. Ils sont branchés sur YouTube, donc on fait passer des messages à travers McFly et Carlito, qui a priori sont des pseudonymes. A priori, c'est pas Monsieur McFly. C'est Monsieur Carlito.
Je crois pas, j'en sais rien.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Un dernier témoignage précisément sur les Alpes-Maritimes avec Evelyne qui nous appelle de temps en temps. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Comment allez-vous?
Donc effectivement, je ne fais pas partie des Alpes-Maritimes, mais non. Comme apparemment ils ont l'intention aussi de faire ce confinement dans d'autres régions. Alors bravo Alain. Vraiment bravo Alain. Premièrement, effectivement, je suis retraitée. Je touche ma retraite tous les fins de mois. Et pourtant, je vous dis sincèrement, je suis catastrophée de ce qui se passe en France. Il a raison. Il y a des gens qu'on met sur le compte qui sont morts, soi-disant, du Covid, qui ne sont pas morts du Covid. Et je peux vous dire deux témoignages.
Ils sont morts avec le Covid, plus exactement.
Non, même pas. Je connais deux personnes dont les parents sont décédés de cancer et non pas de Covid. Et sur le certificat de décès, c'est marqué mort du Covid. Ce sont des mensonges, des mensonges. Effectivement, je voudrais savoir sur les 80 000 morts, soi-disant, en France, combien il y a de gens qui sont morts d'autres choses, d'opérations lourdes qui ont été déprogrammées.
Ne versons pas dans le complotisme, parce que moi, je veux jamais laisser cela. Je pense pas qu'il y ait de mensonge, pour tout vous dire. J'y crois pas.
Je
pense pas.
Moi, écoutez, dans ma famille,
je n'imagine pas que la PHP mente.
Attendez, mon frère, ma belle-sœur, mon neveu, ils ont attrapé le Covid, à cause de mon neveu d'ailleurs, qui est coach sportif. Ils ont eu tous les trois. Ils sont guéris complètement.
Oui.
En fin de compte, c'était une très, très mauvaise grippe. Voilà. Combien il y a de gens qui ont dit qu'ils sont morts du Covid, qui ont plus de 85 ans, on meurt aussi d'une mort normale, de crise cardiaque. Et en ce moment, je vais vous dire, c'est le désespoir qu'ont les gens, le désespoir chez mon frère en ce moment, qui est hospitalisé en Anthony, qui a un cancer. On ne peut pas aller le voir. Pourquoi on ne peut pas aller le voir, hein? Il n'a pas la lèpre. Hein?
Mais parce que c'est le règlement. Merci Evelyne. En tout cas, comme on a beaucoup parlé de ce sujet, je vous propose que nous parlions à présent de McFly et Carlito.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si l'on veut retrouver...
Vous devriez ouvrir une chaîne YouTube, Pascal.
Vous pensez que ça marcherait?
Si vous chantiez, peut-être.
Ah, vous êtes moqueur. Les stars de YouTube, McFly. D'abord, c'est deux stars. Hein. McFly et Carlito étaient en bonne voie de relever ce défi du président Macron qui les a invités à réaliser une vidéo, je l'ai dit, sur l'importance des gestes barrières. Ils ont répondu à ce challenge du président en publiant dimanche matin, je me souviens, qu'on entend, c'est un clip en forme de balade sur un air de guitare dans lequel ils invitent les internautes à appliquer les gestes barrières pour retrouver leur vie d'avant le Covid-19. Alors évidemment, c'est une manière pour Emmanuel Macron de parler aux jeunes. Nous sommes avec Guillaume, bonjour, qui habite Cannes.
Oui, bonjour Pascal.
On reste dans la région.
Exactement, merci de me donner la parole.
Je vous en prie.
D'abord, bravo pour votre émission, et puis c'est une forme de lien social d'entendre des gens parler, d'avoir des avis différents, c'est toujours hyper intéressant.
C'est vrai.
Et je me permettais de rebondir sur ce sujet, parce que j'entendais des gens qui pensaient que c'était un ultime coup de com' de Macron, etc. Je voudrais juste donner un autre éclairage, c'est que moi j'ai l'habitude de travailler dans mon métier avec des youtubeurs ou des influenceurs, peu importe comment on les appelle. Et en fait, tout à l'heure vous disiez quelque chose d'intéressant sur le fait qu'il ne faut pas oublier que des gens qui n'ont pas internet aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est que YouTube. Mais à l'extrême inverse, aujourd'hui on a une tranche de la population, les jeunes, les 13-18 ans, peu importe comment on les nomme, qui à l'inverse, eux, c'est leur seul moyen d'accès à l'information aujourd'hui, les réseaux sociaux, YouTube. Ils surconsomment ce genre de médias. Ils n'écoutent pas la radio, ils ne regardent pas la télévision. Et aujourd'hui, pour toucher directement cette population-là, il n'y a pas d'autre moyen que finalement Snapchat, Instagram et surtout YouTube. Et quand on voit, je dirais, le côté un petit peu sauvage de ce qui peut exister sur YouTube, il y a à boire et à manger. Franchement, d'aller s'adresser à cette population-là en étant sur leur propre terrain de jeu, je trouve pas ça inintéressant. S'il y a un message à faire passer, c'est sans doute une plateforme intéressante. Et je pense que ça peut être fait sans forcément voir le mal ou penser à un coup de com'. Au contraire, c'est des gens qui sont difficiles à toucher, si vous avez des jeunes autour de vous, vous voyez le temps qui passe sur leurs écrans et ils sont pas sur TF1 Replay ou sur je ne sais quoi. Ils sont sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas d'autre moyen pour toucher ces jeunes-là que d'utiliser ces canaux d'accès, et je trouve pas ça inintéressant.
Non mais vous avez raison, et puis l'argument du coup de com' il tombe parce que de tout temps, un chef d'État souhaite parler à sa population. Par Exactement. Définition, tout ce qu'il fait, on pourrait l'interpréter comme coup de com' quand De Gaulle arrive avec son képi et son uniforme de militaire pour parler du coup d'État ou du putsch des généraux, c'est un coup de com'. Bien on sûr, pourrait le dire de tous. Absolument. Donc ça tombe. En revanche, est-ce que c'est efficace? Ça, c'est un autre problème. Et est-ce que ça va être pour lui? Est-ce que ça va le servir pour lui? Est-ce que c'est malin ou pas de parler aux plus jeunes?
Mais je vous donne un autre exemple, Pascal. Moi, j'ai la chance d'avoir je suis sur une génération un petit peu à cheval sur deux. Et moi, j'ai connu l'explosion des radios libres dans les années 90-2000, avec une radio, je crois, qui est cousine de la vôtre, qui s'appelait Fun Radio, où les gens allaient faire de la prévention contre le sida, des gens du gouvernement, sur une radio comme Fun, qui était pourtant très
bien sûr, avec le doc.
Avec Doc Edifool. Et pourtant, ça a apporté ses fruits. Je veux dire, aller sur le terrain de jeu de là où sont les minots pour pouvoir leur apporter un message. Aujourd'hui, honnêtement, je vois pas en quoi c'est malveillant. Je trouve ça plutôt intelligent.
Mais on en a parlé la semaine dernière lorsqu'on a parlé que Jean-Luc Mélenchon allait chez Cyril Hanouna. Et on a rappelé de mémoire, c'est que la part des 25-49 ans qui avaient écouté Hanouna était près de 7 ou 8%, alors que la part des 25-50 ans le même soir qui avaient écouté Darmanin était, je crois, de 2 ou 3%.
Et bien sûr,
c'est-à-dire que ces jeunes-là, c'est pour ça que Mélenchon va chez Hanouna, parce qu'autrement, il ne touche pas cette catégorie-là. Et ben là, c'est un peu comparable.
Exactement.
Merci Guillaume, merci.
Bonne continuation, merci.
Une petite chaîne YouTube, alors vous pensez, mais alors comment on fait pour monter une chaîne YouTube?
Vous allez sur YouTube,
oui.
Vous vous inscrivez comme vous vous inscrivez sur à peu près n'importe quel réseau social,
oui.
Puis une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez glisser à votre gré une vidéo par jour, par semaine.
Mais qui va venir alors? Je vais savoir que j'ai des abonnés?
Ça, vous le saurez parce que vous allez avoir un compteur qui va s'afficher pour connaître le nombre d'abonnés.
Ah.
Mais y aura-t-il des abonnés?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Ça, il faut que vous créiez cette...
Je chantais des chansons, par exemple, des compagnons de la chanson ou le répertoire de Jean Sablon, des choses comme ça.
Eh bien, écoutez, essayez et puis on verra bien.
Ça serait pas mal.
Très curieux de le voir.
Jean Sablon?
Formidable. Non, votre chaîne.
Avec plaisir, 13h50.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
À 13h52, Laurent Tessier.
Et nous vous attendons sur d'autres sujets. Y a-t-il de l'idéologie dans les assiettes? Vous avez été nombreux à réagir vendredi au début de l'émission. Le gouvernement reproche à la mairie écologiste de Lyon de mettre en place un menu unique sans viande dans les cantines scolaires de la ville. Le maire défend un choix lié aux contraintes sanitaires. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a réagi hier dans le grand jury sur RTL.
Je suis toujours pour qu'on laisse le choix aux élèves, notamment pour des raisons sociales. Il y a des enfants qui ne peuvent manger de la viande qu'à la cantine, parce qu'ils n'en ont pas chez eux. Il ne faut pas que ça soit une décision idéologique et que la crise sanitaire serve à ne plus laisser le choix aux enfants.
Pas de polémique, il y aura des œufs du poisson, rappelle Nathalie sur la page Facebook de l'émission. Le français grogne comme d'habitude. Pour Thierry, les écologistes font une nouvelle fois parler d'eux. Les éleveurs français ne risquent pas de les remercier. De l'idéologie pure et simple, dénonce Liliane. Partagez-vous ces avis, 32-10. Justifié pour les parties civiles, disproportionné pour la défense. La justice est saisie aujourd'hui de la question des indemnités réclamées par la famille d'Alexia à Jonathan Daval. Les parents réclament notamment 360 000 euros pour préjudice d'affection et économique. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous dès maintenant au 3210 3210.
On en parlera peut-être tout à l'heure, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais les vacances sont finies à Lyon et les écoliers qui déjeunent en ce moment à la cantine sont privés de viande. C'est une décision du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, qui explique vouloir accélérer le service en période de Covid, donc d'instaurer un menu unique et de privilégier le poisson à la viande. N'y voyez évidemment rien d'idéologique là-dedans.
Je sens un petit sous-entendu dans votre...
Mais pas du tout. Je veux dire, pourquoi voyez-vous toujours le mal?
Non,
donc je peux... Alors on pose les questions de l'idéologie dans les assiettes. On dirait presque un titre d'un film de Max Pécasse. De l'idéologie dans les assiettes. François, qui habite Maintenon. Maintenon.
Bonjour Pascal.
Bonjour François, vous allez bien?
Très bien, pleine forme.
Maintenant,
oui, le château est toujours là. Donc, alors écoutez, moi je voudrais un petit peu, moi ce qui m'ennuie, moi je regarde YouTube, il y a des choses très intéressantes, hein, de toute façon, dans YouTube, mais vraiment à tous les niveaux. Hein. Moi, ce qui m'ennuie, c'est en fait ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire le discours des politiques. C'est-à-dire que, bon, les jeunes sont effectivement avec une autre forme de communication, mais moi, je trouve que ça renvoie à la politique, parce que, bon, il y a quand même des gens en politique, tout le monde n'est pas véreux, je pense qu'il y a des gens qui sont bien encore, heureusement. Donc, je peux en citer deux ou trois. Donc, faut pas, on est trop manichéen. Je veux dire que bon, le côté clanique m'ennuie toujours, là. C'est bon, c'est un côté, si on n'est pas jeune, si ceci, si cela.
Je comprends pas vraiment ce que vous voulez dire, à vrai dire.
Ben, moi, je comprends. C'est-à-dire que bon, moi, monsieur Macron, si vous voulez, de toute façon, par rapport à ça, je trouve qu'à chaque fois, il essaye de penser 2022. Donc, il fait toute fonction de.
Mais pourquoi vous parlez des hommes politiques qui seraient véreux ou pas? Quel rapport avec McFly et.
Mais parce que je pense qu'on est dans une société clanique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a ce que les jeunes font dans leur domaine, dans leur façon d'être ou de faire. Il y a les autres. Cette société fonctionne comme ça, donc c'est quand même ennuyeux, je dis. Et je pense qu'en plus de ça, faire quelque chose sur les gestes barrières, bah écoutez, les gestes barrières, je crois qu'on est sursaturé, hein. Le problème, c'est pas ça, c'est les gens qui transgressent. Donc, je veux dire que bon, on fait pas avancer les choses si effectivement on peut bombarder les gens pendant 40 000 fois sur les mêmes sujets, hein. Donc moi je sais pas, je vois pas ça forcément
Pensez que ça sert à rien.
Oui, c'est un peu ça, effectivement. Et moi je trouve que le président à chaque fois, bah il fait bon, je te caresse par-ci, je caresse par-là.
Et il caresse, il fait de la com, président mais problème, dès qu'il parle, il fait de la com.
Peut-être mais il en fait trop, c'est
vous
ça.
Trouvez que là c'est trop?
Ah oui, tout à fait, oui. Moi je pense que il serait mieux d'être sur le terrain, sur des tas de de voir les gens peut-être un peu plus. Il est dans la parole, monsieur Macron, c'est ça le problème, il me gêne à ce niveau-là, parce que effectivement, bah un coup par-ci, un coup par-là. Il y a des jeunes étudiants qui n'ont rien à manger. Bon, ça, à mon avis, c'est peut-être plus important, mais ça par contre, bon.
Il avait fait d'ailleurs un repas à 1 euro pour ceux-là.
Oui, mais bon, bah voilà, on commence, vous voyez, 1 euro. Bon,
c'était pas mal.
Non, mais sous le chapeau, il y a toujours quelque chose, vous savez, c'est quelqu'un qui est très séduisant, donc utilise effectivement sa personnalité à ce niveau-là. Mais bon, ce qu'il voit, monsieur Macron, quand même, il faut être bien lucide, c'est 2022, hein, il commence tôt, effectivement, parce que la tâche va être certainement très rude, bon, peut-être aussi. Et bah, tous les moyens sont bons, alors ceci, par là, et bon, et moi, ça m'agace, ça.
Ça vous agace. Ah oui, bah merci François de ce témoignage et on va poursuivre encore puisqu'il nous restera une demi-heure pour parler des autres sujets, je l'ai dit tout à l'heure, de l'idéologie dans les assiettes. On pourra parler également de la famille de Alexia qui réclame 360 000 euros à Jonathan Daval et ça peut faire réagir. Et puis Hortense Crépin est déjà là pour le flash de 14h. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est quasiment 14h. McFly et Carlito, on va continuer d'en parler, mais pour le moment, c'est le flash d'Hortense Crépin.
Le littoral des Alpes-Maritimes confiné lors des deux prochains week-ends pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, annonce ce midi de la préfecture. Des sorties d'une heure vont être autorisées dans un rayon de 5 km et avec attestation sur cette zone de Théoul-sur-Mer à Menton. À partir de demain et pour 15 jours, les commerces de plus de 5000 m² vont être fermés dans le département, sauf les pharmacies et les commerces alimentaires. Des contrôles aux frontières renforcés sont prévus, notamment dans les aéroports. Il n'y a pas lieu de polémiquer, déclaration d'Olivier Véran à propos du menu unique sans viande dans les cantines de Lyon, mis en place par la mairie Europe Écologie Les Verts, en raison des contraintes sanitaires. Une décision dénoncée par plusieurs membres du gouvernement. Je ne suis pas choquée qu'on puisse proposer des menus sans viande à l'école. La question, c'est quelle est la motivation sous-jacente, précise le ministre. De son côté, le maire de la ville, Grégory Doucet, rappelle qu'il ne s'agit pas d'une opération de promotion du végétarianisme ou du véganisme, puisque les enfants pourront manger des œufs ou du poisson. Sanofi va aider son concurrent Johnson & Johnson à fabriquer son vaccin en France au second semestre, comme il s'apprête à le faire pour celui développé par Pfizer-BioNTech. L'Élysée salue une très bonne nouvelle qui va élargir l'offre de vaccins dans le pays. En rugby, 14 personnes désormais positives au coronavirus dans le staff et l'effectif du 15 de France. 5 nouveaux joueurs viennent de recevoir leur test, dont le capitaine Charles Olivon et l'arrière Brice Dulin. Et cela à 6 jours du match des Bleus face à l'Écosse dans le cadre du tournoi des 6 nations. La météo aujourd'hui avec de grosses pluies orageuses sur le Languedoc et le Roussillon, avec de fortes rafales de vent, un ciel nuageux sur la moitié ouest et le sud, des pluies fréquentes et des vents forts en Provence, en Corse et dans le midi toulousain. Dans l'est, le nord et les régions du centre, le soleil sera toujours là. Les températures cet après-midi de 11 à 20 degrés. Les courses, c'était à Vincennes, l'arrivée provisoire 13, 6, 12, 11, et 9. 14h et presque 2 minutes sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec Pascal Pro.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que les stars de YouTube, McFly et Carlito, étaient en bonne voie hier de relever le défi du président Macron qui les a invités à réaliser une vidéo sur l'importance des gestes barrières. Et je rappelle que ce sont deux YouTubeurs. Ils ont répondu à ce challenge du président en publiant dimanche matin « Je me souviens » qui est un clip en forme de balade. Écoutez quelques notes.
« Que j'ai pas aéré la pièce, pardon monsieur. » Monsieur Castex, j'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous, elle a survécu.
C'est sur un air de guitare dans lequel ils invitent les internautes à appliquer des gestes barrières pour retrouver la vie d'avant. Le clip s'ouvre par une séquence dans laquelle les youtubeurs annoncent que le président a accepté de participer à un concours anecdote s'il remplissait son défi et s'il est en bonne voie d'atteindre l'objectif fixé par Macron. Hier, il y avait déjà 3,5 millions de vues sur YouTube. C'était hier soir. Et ça se hissait en tête des tendances en France sur la plateforme vidéo de Google. La chanson a également été publiée sur les principaux sites de streaming musical et les deux vidéastes sont engagés à reverser les recettes au Zagorae, qui est un réseau d'épiceries solidaires pour étudiants. Donc vous savez quasiment tout.
Vous Pascal, maîtrisez le sujet en tout cas.
Non, mais j'ai pris quelques notes. Bonjour Pascal.
Allô ?
Oui Pascal, vous êtes directrice logistique dans le Val d'Oise.
Oui, en fait, je l'étais. Hein. Je ne le suis plus, mais donc j'ai la soixantaine et en fait, j'appelais en tant que mère de famille. Donc j'ai trois enfants, dont deux qui sont dans les cibles de YouTube et de McFly et Carlito, 19 et 18 ans, donc les deux derniers. Et en fait, moi, je trouve ça très bien. Donc je voulais donner mon avis comme ça, tout simplement. Je trouve ça très très bien dans le sens où moi, mes enfants. La première chose qu'ils ont faite hier, c'était de montrer la vidéo de la chanson. Il se trouve que j'avais déjà regardé McFly et Carlito sur des séquences avec des anecdotes, c'est assez drôle. Je les trouve drôles, déjà. Je trouve que pour les jeunes, c'est très bien, mais pas seulement. Voilà, je pense qu'il faut vivre avec son époque. Il faut vivre avec son temps et aujourd'hui c'est une forme de communication qui est de notre époque et qui peut toucher tout le monde, pas seulement les jeunes, parce que la chanson est drôle. Bon, on n'appréciera pas forcément, tout le monde n'appréciera pas, mais je trouve il y a du recul, il y a de l'humour et pourquoi pas, et je pense que ça a de l'impact et c'est ça qui compte en fin de compte, c'est que ça a de l'impact sur les jeunes et ça peut aider dans la situation actuelle à les sensibiliser encore un peu plus. Voilà, moi je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Voilà.
Alors, cette histoire de concours d'anecdotes, en fait, c'est fréquent et c'est un format, un concours d'anecdotes assez populaire qui les a déjà opposés à Guillaume Canet, à Michael Young ou encore à David Guetta. Et le perdant du concours d'anecdotes a toujours un gage. Donc, s'il perd, Manu aura un gage, préviennent les deux youtubeurs. Vous les avez vus, ces concours d'anecdotes ?
Alors, j'ai vu celui de David Guetta et de Michael Young.
Et par exemple, ça donne quoi ?
Eh ben c'est drôle. Alors parfois c'est en fait je sais plus avec lequel des deux il y a des meubles qui se retrouvent par terre, en fait c'est un peu la folie quoi sur le plateau, mais c'est drôle parce que effectivement en fait McFly et Carlito racontent une anecdote qui est soit vraie soit fausse, l'autre doit deviner si elle est vraie ou fausse et l'inverse est fait également dans l'autre sens, celui qui perd a une anecdote, alors a un gage, je me souviens plus des gages, hein, je m'en rappelle plus, mais c'est vrai que c'est drôle, c'est dans l'air du temps, on a besoin de se détendre aussi, parler des sujets sérieux en se détendant et en rigolant. Moi, je vois pas en quoi ça peut être réservé qu'aux jeunes. Voilà.
Merci. Voilà, ben merci Pascal, et vous êtes la dernière auditrice à parler de ce sujet, McFly et Carlito. Alors Carlito, je crois que c'est le fils de Guy Carlier, j'en suis sûr même, j'ai entendu ce matin à Cyprien Sini.
Ah ouais, je ne savais pas, voyez-vous.
Donc c'est le fils de Guy Carlier, et McFly, je ne sais pas de qui il est le fils.
De Monsieur Koskas. David Koskas, son prénom.
Mais aujourd'hui, ils sont à 6 millions et quelques, donc j'ai regardé tout à l'heure. Donc ils vont les atteindre, leurs 10 millions. Et je trouve que Macron, il a bien fait de jouer le jeu et d'aller vers ça, parce que non seulement ça touche les jeunes, il ne faut pas arrêter de répéter des manipulations politiques, parce que tout ce qui est politique, quelque part, vise à convaincre des gens et à les faire voter pour toi.
Donc, je vois pas ce qu'il y a de plus mal à faire ça ou autre chose, voilà.
Ben, merci Pascal, on va réécouter quelques notes et on va changer de sujet tout de suite après.
Merci, au revoir.
Quelques notes, donc au revoir Pascal.
Et merci de m'avoir prise, au revoir. Ben
non, je vous en prie Pascal.
J'ai ôté mon masque en voiture, j'en pouvais plus de pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras.
C'est trop visqueux.
J'ai éternué dans ma main. Mon cou.
Alors là, c'est ce qu'il faut pas faire, manifestement, Greg.
Il y avait trop de monde dans l'ascenseur, mais je suis rentré quand même.
Voilà, ça faut pas faire. Tout ça. En même temps, on sait tout ça, quoi, depuis un an.
C'est peut-être nécessaire de le répéter malgré tout.
Ces gens, ils sont pas idiots quand même. Qui ne sait pas aujourd'hui qu'il faut porter un masque et respecter des gestes barrières?
Vous respectez chacun des gestes, par exemple l'ascenseur, vous prenez toujours l'ascenseur seul?
Je prends l'escalier.
Ah oui, mais ça c'est parce que vous êtes un grand sportif.
Non, je pas spécialement, mais je prends l'escalier.
Ah, vous dansez quand même là-dessus?
Je danse, oui. Bon, de l'idéologie dans les assiettes, le gouvernement reproche à la mairie écologiste de Lyon d'imposer un menu sans viande dans les cantines scolaires. Celle-ci défend un choix lié aux contraintes sanitaires déjà fait l'an dernier par l'ancienne municipalité sans choquer personne. C'est vrai que Gérard Collomb avait pris cette mesure et on n'en avait pas parlé. On en parle, nous, dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors Elisabeth, qui habite en Moselle, cette affaire de cantine et c'est ce maire de Lyon qui, Grégory Doucet, d'abord, est-ce que vous y croyez à ça, le prétexte qu'il donne, en tout cas l'explication qu'il donne, c'est-à-dire accélérer le service en période de Covid, donc menu unique et on privilégie le poisson à la viande. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal. Bah, pour moi, c'est comme quoi on mange vraiment la Covid à toutes les sauces.
C'est-à-dire?
Bah, je veux dire, on nous fait passer le prétexte comme quoi c'est pour améliorer le flux, pour la circulation avec les enfants, pour que les enfants prennent moins de temps, etc. Mais en fin de compte, j'ai plus l'impression que c'est pour imposer, on va dire, certaines idées écologiques comme quoi déjà la viande, c'est pas bon pour l'environnement, et patati. Et puis, en même temps, on règle le problème au passage pour les menus halal.
Bah en tout cas, c'est votre avis, manifestement. Mais sans viande, mais avec œufs et poissons, ce menu reste équilibré et permet de n'exclure aucun enfant, a affirmé l'adjointe à l'éducation Stéphanie Léger.
Bah, c'est pas mal, mais moi, dans le cas présent, moi, j'ai une fille, bah, elle n'aime pas le poisson, elle n'aime pas l'œuf. Il nous mettrait ce menu-là dans l'établissement de ma fille, bah, je ne sais pas ce qu'elle mangerait, quoi.
Alors, la mairie explique qu'à la demande de l'éducation nationale, une distanciation de 2 mètres doit être respectée entre les enfants à la cantine, ce qui revient à faire manger moins d'élèves en même temps à partir de ce lundi, parce que c'est la rentrée aujourd'hui. Donc, le recours temporaire au menu unique, l'important, c'est le menu unique, on est d'accord. Alors ça, on comprend, un menu unique, parce que ça fluidifie. Après, qu'est-ce que tu mets dans ce menu unique? Et là, tu as éliminé la viande.
Ben, on peut très bien en mettre aussi dans la semaine. Hein. Je vois pas.
Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. On pourrait faire, bien sûr.
Ah oui.
Mais non, on considère que la viande, c'est le prétexte qui est donné ou l'explication qui est donnée, c'est sans doute pas accepté par la majorité des élèves, alors que le poisson l'est davantage.
Ah ben je sais pas. Il faudra qu'on m'explique parce que c'est plus souvent difficile de faire manger du poisson aux enfants que de faire manger de la viande. Donc là, franchement,
D'accord, Elisabeth. Je vous adore parce que c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tout simplement du bon sens pratique, a dit le maire Grégory Doucet, en rappelant au passage que le même choix avait été fait à la sortie du premier confinement au printemps dernier par l'équipe de Gérard Collomb. Ce qui est vrai d'ailleurs, et personne n'en avait parlé. À défaut de viande, personne n'avait alors décelé la moindre écologie dans les assiettes. C'est objectivement vrai ce qu'il a dit.
Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, on n'en avait pas vraiment parlé, mais là, maintenant, on essaie de trouver un petit peu... Je veux dire, tout ce qui va faire un petit peu le buzz, et puis bon...
Alors, il y a eu beaucoup de réactions ce week-end. Hein. Julien de Normandie, ministre, arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants. Ministre de l'Agriculture, hein, Julien de Normandie, précisant, il a précisé avoir saisi le préfet du Rhône. Gérald Darmanin également a parlé. Tout le monde a parlé. Hein.
Bah, après, l'islamo-gauchisme dans les universités, on va arriver à l'islamo-gauchisme dans les cantines.
Bah, écoutez, c'est...
On va finir partout. Ça devient vraiment du grand n'importe quoi en France. Vraiment, on part dans tous les sens.
C'est pas faux que tout fait polémique. Jean-Claude est avec nous qui habite le Maine-et-Loire. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
Votre avis?
Eh bien, il y a que les Lyonnais ont bien élu un maire écologiste. Je me trompe pas.
Oui.
Donc, il mène une politique écologiste.
Eh oui, mais tout le monde n'a pas voté pour lui. Bah, tout le monde n'a pas voté pour lui.
Ceux qui ne sont pas contents le virent à la prochaine élection.
Et donc, pendant ce temps-là, on ne doit pas manger de viande quand on est un jeune enfant.
Attendez, il ne faut pas exagérer non plus.
Mais vous savez que les enfants dans les quartiers populaires, parfois, c'est le seul endroit où ils mangent de la viande à la cantine.
Vous êtes sûr qu'il y aurait beaucoup de quartiers populaires à Lyon ?
Ah oui, il y a toujours des quartiers populaires. Bah, sur toutes les cantines, oui, puisque c'est dans tout, c'est surtout le Lyonnais.
Je me demande si... c'est l'agglo. Après, je vous dis, la quantité de viande nécessaire pour aller bien, c'est infime.
Ah ben oui, mais ça c'est parce que vous pensez que la viande c'est pas nécessaire pour un enfant.
C'est nécessaire, mais en quantité. Non, les protéines sont nécessaires. Les œufs, le poisson, les légumineuses.
Pensez qu'il y a pas de carence si un enfant ne mange pas de viande.
Il y a pas de carence si un enfant ne mange pas de viande tous les jours. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit.
Donc vous trouvez que c'est une bonne chose, Jean-Claude ?
Ah ben oui, bien sûr. Par contre, l'idéologie, elle est aussi chez les gens qui protestent contre la diminution de quantité de viande.
Pourquoi ?
L'idéologie, elle est là aussi.
Pourquoi ?
La FNSEA défend ses enfants ou ses intérêts, à votre avis ?
Elle défend un art de vivre aussi.
Non, ils défendent leurs intérêts.
Bah, oui, mais d'abord, vous avez raison. Bien sûr, mais il y a aussi un art de vivre. C'est la viande, c'est un art de vivre.
Non, c'est une façon de s'alimenter. C'est une habitude alimentaire.
C'est pas qu'une habitude, la cuisine. C'est aussi un art de vivre.
Il y a 50 ans, on ne mangeait pas de la viande à tous les repas comme ça. C'est pas vrai.
Bon, on en mange plutôt moins aujourd'hui qu'à 50 ans, visiblement.
Je suis pas sûr. Pas dans tous les milieux.
Alors Catherine est là aussi parce qu'elle est d'accord avec vous, j'ai l'impression, Catherine, en Haute-Savoie. Vous êtes la dame de Haute-Savoie, Catherine.
Je voulais dire autre chose.
Bonjour,
bonjour. Jean-Claude, je vous reprends après si vous voulez, mais Catherine, comme il est déjà 14h15, Catherine, la dame de Haute-Savoie, dites-nous tout.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Catherine.
Écoutez, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Femmes Nomades, dans lequel on est plein de femmes de différentes cultures, marocaines, gabonaises, hongroise, allemande, française, et on est amené à discuter entre nous, à partager par exemple des recettes de cuisine, et on s'est posé beaucoup de questions sur effectivement ce que c'était que la viande, parce qu'à la viande sont associées en fait la festivité et la force, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a pris l'habitude dans toutes les cultures d'associer un repas festif avec une odeur qui, vous voyez, quand on commence à faire mijoter, ça parfume tout l'ensemble de la maison, donc les gens qui vaquent à leurs occupations savent que dans quelques heures après leurs occupations achevées, ils viendront se rendre autour d'un repas, donc il y a effectivement ce côté festif de la viande qui est dans toutes les cultures. Donc moi je dirais que je suis pas dans pour et contre, et je suis pas trop d'accord avec l'histoire de c'est l'idéologie dans l'assiette, bien que je vous apprécie énormément, c'est ce que fait le maire, peu importe, il remet quelque part au centre un questionnement, c'est-à-dire qu'on est nous aussi dans notre civilisation occidentale passé à une forme d'idéologie où on mange de la viande tous les jours, quelquefois deux fois par jour, et où il y a une peur quand on ne mange pas de viande de ne pas avoir suffisamment de force.
Là on lui demande pas de mettre de la viande tous les jours, on lui demande de la mettre de la viande une fois par semaine, et là il la supprime à 100%.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est battus en tant que maire souvent pour pouvoir avoir au moins un menu qui n'était pas qu'avec de la viande, surtout qu'elle est souvent reconstituée. Il faut savoir que les viandes des cantines, je crois qu'il faut aussi qu'on parle de la qualité. Quand une bête a bien vécu, qu'elle a été bien dans son pré, puis qu'elle est tuée avec respect, la viande est bonne. Mais quand vous avez des bêtes qui sont élevées en élevage et qui souffrent toute leur vie, qu'est-ce qu'on mange vraiment de la viande ? Qu'est-ce qu'on mange comme énergie ? Parce que c'est ça aussi ce qu'on mange dans la viande. Qu'est-ce qu'on attend de ça ? C'est pas comme avant, quand on avait tué le lapin. Mon papy tuait le lapin dans la cuisine. Après, ma mamie le faisait rôtir avec le civet dans son sang. Je ne vous explique pas comment c'était bon. Mais il y avait quelque chose qui était naturel, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est des rayons de supermarché dans du plastique. Ça va encombrer. Et ce n'est pas bon. C'est souvent des saucisses reconstituées. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Mais c'est pas
j'ai des enfants,
de
mais ils vont moins à la cantine.
Ouais, voilà. Ce n'est pas vraiment de la viande comme avant, si vous voulez. Et donc, quelque part, la vraie question, ce n'est pas viande ou pas viande. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on attend du moment de repas ? C'est comment on partage, et c'est comment aussi on peut la cuisiner en étant malin, c'est-à-dire en mettant pas mal de légumes et vous faites mijoter, voyez, avec plein d'oignons, d'ail, vous mettez quelques morceaux de mouton, beaucoup de légumes, et en fait le mouton va tout parfumer et vous en avez moins besoin pour donner du goût. Donc si vous voulez, c'est pas binaire, cette... enfin, encore une fois, on est toujours dans du binaire. Voilà. Et
bah,
nous,
merci.
Femmes nomades, on a envie de dire arrêtons le binaire, soyons juste, revenons à des choses de nature, concrètes, et puis faisons en sorte d'être dans l'amour, l'harmonie, et on trouvera des solutions.
Voilà. Vous êtes prof, Catherine ?
Oui, je suis prof, Pascal, oui.
Vous êtes prof de quoi ?
Oh, bah, je suis une ancienne HEC qui a décidé de tout arrêter, je suis prof d'allemand depuis 2 ans. Si, ouais.
Ah ouais, alors... Ah ouais, donc ça, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous étiez au cœur du business, au cœur du système, et vous avez dit j'en ai marre.
Ouais, je veux plus donner ça, c'est du non-sens.
Donc vous habitiez où ?
En région parisienne.
Et donc vous êtes parti ?
Je suis repartir. Bah, je suis entre les deux là pour l'instant.
Ah ouais, mais vous êtes content parce que c'est dur de changer de vie, c'est plus dur qu'on pense.
Non, j'ai pas complètement changé, Pascal, ne vous trompez pas, je suis en train d'essayer de partir là.
D'accord.
Ouais, je suis entre les deux.
Eh oui, bon, ça c'est...
Je suis pas sûre d'y arriver.
Ah non, mais c'est la première fois que vous nous appelez ?
Oui, c'est la première fois, Pascal, oui. Bah, j'ai plein de femmes avec moi, hein, qui sont toutes différentes.
Plein de quoi ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais moi, j'aime bien, d'abord, j'aime bien votre voix, la manière dont vous parlez. Non, mais c'est intéressant, on sent une énergie, vous voyez, dans ce que vous dites.
Oh, vous êtes mignon. Mais bah, j'aime beaucoup regarder, Pascal. Non, mais j'aime bien ce que vous faites sur CNews. C'est bien, franchement, vous êtes en train de redonner l'esprit français.
Bah, oui, bah, restons sur vous, Catherine, restons sur vous. Et vous voulez pas nous rappeler, Catherine, pour ça, pour cet itinéraire de vie ?
Avec grand plaisir.
Franchement, moi, c'est intéressant, ça vous changez de vie.
Mais je suis pas encore partie, Jean.
Bah oui, mais justement. Tiens, on va le faire demain, ce thème. Est-ce que vous avez envie de changer de vie? Grâce à vous.
Changer de vie, Pascal, oui.
Changer de vie. Changer de vie.
Je reconnais pas.
C'est changer tout, en fait. On le fait demain? On le fait demain. Changer de vie. Je le dis à l'ami Laurent Tessier. Changer de vie. C'était changer de tout. Bon, à demain, Catherine.
Merci. Et puis, bonne suite. Merci pour ce que vous faites.
Non, mais c'est intéressant. Vous avez parfois envie de changer de vie, Greg ?
Non, moi, je suis très heureux. J'ai cette chance. C'est vrai.
Oui, moi aussi, je suis heureux. Mais je comprends, tu vois, une jeune femme qui fait HEC, qui dit, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre du business, j'en ai marre de la vie. Ouais. À quoi chercher un sens à tout ça ? À quoi bon ?
L'avantage, Catherine, c'est que vous pourrez toujours nous écouter. Où que vous soyez,
bien sûr.
Bah écoutez, oui, mais... c'est merveilleux parce qu'on continue à partager tous. Mais moi, je suis pour l'unité de tout. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir toutes les religions et c'est une chance. Parce qu'en fait, on peut se comprendre en miroir. Au lieu de nous opposer, on a vraiment une chance magnifique.
Mais moi, alors j'ai envie de vous entendre plus longtemps parce que je trouve qu'il y a derrière tout ça des choses intéressantes. J'ai une petite chanson pour vous. Vous voulez bien ?
Oh, merci.
Écoutez, regardez. Ah non, mais on veut pas aller dormir chez vous non plus parce que je voudrais que ce serait quand même pas.
C'est mes parents, c'est ma maman qu'on appelait comme ça, la dame de haute savoir.
C'est vrai ? Non, mais c'est très intéressant. D'abord, c'est très dur de partir, en plus faire HEC, c'est le grand écart. Oui, non, mais de vouloir. Bon. Vous en avez eu marre, c'est bien. Et puis vous avez l'âge où il faut le faire, c'est The Crisis Middle Life.
Comme... un petit peu d'énergie, ouais.
Bien sûr. Bien. Ah bon, attendez, évidemment, vous êtes toute jeune, l'énergie, on l'a jusqu'au bout. Vous avez vu, j'ai dit le Crisis Middle Life.
Mais je note ce
crise
magnifique...
de la moitié de vie.
Non, vous pouvez le redire avec ce magnifique.
The Crisis Middle Life. C'est ce qu'on appelle la remise en cause de tout. À quoi bon ? À quoi bon la vie que j'ai vécue ? Salut Catherine, à demain, on fera le sujet.
Bonne journée, Pascal.
À demain. Une dernière pub, c'est même un sujet pour Flavie Flamand, hein, le changer de vie, changer de vie, bon, 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 changer tout. Michel Jonas, vous ne connaissez pas ?
Si, si, mais il est... au départ, je n'avais pas reconnu, puis d'ailleurs, il est complètement inutile de mettre l'original.
Allez, une pub à tout de suite et on parle encore des cantines.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.